Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis. Il fait chaud, pensez à vous hydrater, mettez-vous à l'ombre, n'allez pas courir à midi, voilà. Et merci Seigneur qui nous donne la force d'être là ce matin. Nous avons commencé le culte avec ce cantique « Venez le célébrer ». Il y avait un autre qui disait « Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul ». Je ne sais pas si vous avez comme moi remarqué que la Bible ne nous dit pas « Si tu as envie d'adorer Dieu, tu as envie, fais-le. Si tu n'as pas envie, ne le fais pas. » La Bible nous encourage à adorer le Seigneur, à le louer. Et je crois que nous grandissons dans l'adoration, dans la joie, quand nous comprenons pourquoi nous pouvons adorer Dieu. Pourquoi nous devons adorer Dieu. Et ce matin, j'aimerais que nous prenions le psaume 147 qui nous encourage à adorer le Seigneur, à louer le Seigneur et qui nous donne les raisons pour lesquelles nous pouvons adorer avec joie. Le psaume 147. Psaume 147, verset 1. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il ordonne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il a fermé les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ces ordonnances. Louez l'Éternel. Voilà, vous remarquez comme moi que au verset 3, il nous est dit que l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Et donc, il y avait une situation de chaos, de déchéance, et Dieu remet les choses en place. Et en lisant ce psaume, on peut se faire une idée de la joie du peuple d'Israël qui avait été amené en exil à cause de son péché et qui avait pu retourner à Jérusalem sous la conduite d'Esdras, de Néhémie, de Zorobabel et qui voit aussi que les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites par Nebuchadnezzar ont été reconstruites. Les campagnes qui étaient longtemps désertées parce que le peuple était en exil, qui étaient incultes, eh bien, recommençaient à donner leur récolte. Et il y a de la joie de voir cela pour ce peuple qui était parti en exil et qui est revenu à Jérusalem et qui voit ce que Dieu a fait. Les murailles ont été reconstruites, le sanctuaire a été reconstruit, les campagnes s'égaient, la nature reprend ses droits. Donc le psaume 47 loue l'Éternel comme le Dieu qui agit à la fois dans la nature, on a vu, on verra en détail, il agit dans la nature pour produire toutes sortes de choses, des changements merveilleux, la neige, la pluie, il fait pousser l'herbe, il nourrit le bétail, il nourrit les animaux quand ils crient vers lui. Et on voit aussi que l'Éternel agit au sein de son peuple. Le même Dieu qui agit dans la nature, c'est le même qui agit au sein de son peuple pour guérir ses plaies pour lui donner force et sécurité. Le travail de Dieu au sein de la nature se voit aussi au sein de son peuple. Et on a devant nous la manifestation des œuvres de Dieu. Quand vous regardez la nature autour de vous, dans le ciel ou sur la terre, ou plus au fond, quand vous regardez au microscope ou dans toutes sortes d'instruments physiques ou chimiques, vous voyez de grandes choses. Et qui fait ces choses, l'atome et tout cela, c'est le Seigneur. Il fait des grandes choses. Et tous les jours, il fait très chaud. C'est le soleil qui, c'est Dieu qui permet que ce soleil chauffe. Il a ses raisons, ça, on a chaud. Mais ça fait du bien aussi à la nature et à d'autres choses. Et donc, on voit aussi que Dieu prend soin des petits animaux. Il nous est parlé du petit du corbeau. Et tout, il n'y a pas beaucoup de détails dans ce psaume, mais dans toute la Bible, on voit que Dieu prend soin des animaux, il prend soin de l'herbe. Donc, s'il prend soin des petites créatures comme ça, eh bien, c'est le gage que Dieu peut prendre soin aussi de ceux qui le craignent. Et on peut lire au psaume 33, verset 1, je lis pour vous, « Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. » Le psaume 92, verset 1, nous dit aussi, « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut. » Voilà, on ne loue pas un petit Dieu hein, domestique, on loue le grand Dieu. Donc, quand on loue notre Dieu de tout notre cœur, on y trouve de la joie, on ne le fait pas du bout des lèvres. On ne le fait pas intimider, on va dire un petit mot, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut dire. On le dit parce qu'on loue un grand Dieu. Un Dieu qui agit dans la nature, et on voit ça tous les jours, et encore plus en été. Les petits oiseaux, les coquelicots et tout ça, les champs merveilleux. Enfin, vous allez vous balader, vous allez voir de belles choses. Des fleuves, des montagnes, de l'eau qui coule, c'est merveilleux tout ça. Mais tous les jours, on voit ça. Et la parole nous dit que c'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas les hommes, c'est Dieu qui est derrière tout ça. Donc on loue un Dieu avec joie, avec joie. Et il nous a dit que c'est une bonne chose, c'est une belle chose. Donc quand nous sommes ce matin réunis et tous les jours, ne soyons pas timides. Dieu mérite notre adoration. Il nous fait tellement de bien. Il nous donne la nourriture, le vêtement, le travail, tant de choses, la protection. Et si on compte les bienfaits de Dieu, nous dit le cantique, et pas quand il y a des problèmes, mais quand on les a, quand on jouit de tout cela, la santé, tout ça, même si elle est réduite, compte les bienfaits de Dieu. Voilà, vous allez passer un examen pour ceux qui sont chrétiens et qui vont passer des examens. C'est Dieu qui est maître du sort. C'est pas vous qui allez, c'est pas le jury qui décide, hein, c'est Dieu qui est maître du sort. Et vous tirez le sujet au sort, eh bien, Dieu fait des belles choses. Et le résultat sera aussi celui de Dieu, même si vous avez le sentiment que c'est les hommes qui dirigent, et bien derrière cela, il y a la main de Dieu. Et vous pourrez remercier le Seigneur, le résultat, c'est le tien. Je l'accepte, parce que tu me fais du bien au travers de ça. Donc on voit, des versets 1 à 3, un Dieu qui restaure. Pour commencer, là, nous a dit, l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. C'est un Dieu qui restaure. Les murailles étaient détruites, quand Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem, le peuple a été amené en exil, et bien Dieu restaure, il remet les choses en place. Le peuple qui était en exil est ramené, ils sont rassemblés, ils rassemblent les exilés d'Israël. Remarquez, il nous a dit, l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Mais qu'est-ce qu'on voit? En fait, ce sont les hommes qui ont rebâti. Mais derrière ça, la parole nous dit que c'est l'Éternel qui rebâtit Jérusalem. C'est lui qui rassemble les exilés. On voit l'action des hommes, mais derrière l'action des hommes, il y a la main de Dieu. Et elle fait du bien. Et frères et sœurs, quand il y a du bien qui est fait, on a tendance à voir les hommes, mais louons l'Éternel. Disons Amen, l'Éternel. Parce que c'est lui. On a tendance à faire des hommes des stars, c'est pas eux. C'est l'Éternel. Il rebâtit Jérusalem, même si ce sont les hommes qui montent les pierres, qui mettent le ciment, qui transfèrent. Il rebâtit Jérusalem parce que c'est son plan. Il veut du bien à son peuple. Il rassemble les exilés d'Israël. Il nous a dit aussi, au verset 3, qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il panse leurs blessures. Vous savez, des fois, les blessures psychologiques sont plus dures que les blessures physiques. On met un pansement, voilà, les infirmières qui sont là connaissent ça bien, voilà, on guérit ça. Mais les blessures internes, ça fait mal. Des fois, ce n'est pas visible, mais ça nous travaille de l'intérieur. Et ça peut durer des années, Eh bien, il nous a dit qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé, verset 3. Il panse leurs blessures. C'est le grand médecin de nos cœurs, de nos souffrances intérieures, de nos histoires compliquées. C'est lui qui guérit. Et puis, l'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël, il rebâtit Jérusalem. Alors, il va préparer une cité pour son peuple et puis il va les abandonner comme ça. Pourquoi rebâtir Jérusalem si ce n'est pas pour prendre soin de son peuple? Il nous a dit que dans Jean, je vais vous préparer une place. Il irait nous préparer une place et puis il va nous laisser dans la décrépitude toute notre vie. Non, s'il nous prépare une place, c'est pour que nous y allions. Il va prendre soin de nous jusqu'à ce que nous soyons avec lui. Puisqu'il a dit, je viendrai vous prendre et je vous ramener avec moi. Voilà. S'il bâtit une cité pour un peuple, il va prendre soin de son peuple, puisqu'il a bâti la cité pour eux. Voilà. Et donc, Dieu ne peut pas ignorer les souffrances de son peuple si lui prend le temps de préparer une cité pour eux. Il bâtit Jérusalem et il prend soin de Sion. Voilà. Donc, on voit là, des versets 1 à 3, un Dieu qui restaure. Et merci Seigneur pour toutes nos blessures dont il nous a guéris. Dans notre passé, dans nos relations avec les hommes, Dieu guérit les blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il panse leurs blessures. Le grand médecin, le grand chirurgien, la grande infirmière, il fait tout à merveille. On voit ensuite des versets 4 à 11 que Dieu est un Dieu tout-puissant. Et donc, il nous est dit au verset 4, il compte le nombre des étoiles, il ordonne à toutes des noms. Il vous arrive de voir un ciel étoilé, quand il n'y a pas trop de pollution lumineuse, de voir beaucoup d'étoiles dans le ciel, allez les compter et dites-moi combien vous avez trouvé. Eh bien, il nous dit que Dieu peut le faire. Il le fait, lui. Et il ordonne à tout un nom. Nous, on ne peut pas le faire, mais il le fait. Alors, il n'est pas... Celui qui peut compter les étoiles et leur donner un nom est capable de rassembler de partout le peuple d'Israël qui était exilé un peu partout, il les a rassemblés, il les a ramenés. Donc, s'il peut d'un seul regard compter les étoiles et leur donner à tout un nom, eh bien, il peut aussi rassembler son peuple, même s'ils sont éparpillés. Regardons Ésaïe, chapitre 40. Ésaïe, chapitre 40, versets 26 à 27. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible à Ésaïe 40. Versets 26 à 27. Ésaïe 40, verset 26. Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi, dis-tu, Jacob? Pourquoi, dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui crée les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Mais avant d'arriver à cette compréhension-là, le prophète dit, mais levez les yeux en haut, détachez un peu vos yeux de vos situations compliquées que vous ne comprenez pas toujours, levez les yeux et trouvez un encouragement ailleurs qu'en vous-même, trouvez l'encouragement ailleurs que dans vos circonstances, regardez en haut, eh bien qui fait ces choses? C'est l'Éternel. Eh bien, s'il peut faire ces choses, il peut prendre soin de vous. Voilà. Dans Genèse, chapitre 15 aussi, verset 5. Genèse, chapitre 15. L'idée est là aussi du Dieu qui compte les étoiles. Genèse, chapitre 15, verset 5. Quand Abraham attendait la postérité promise et ça ne venait pas, il disait, mais tu ne m'as pas donné d'enfant, et le seul héritier, c'est Eliezer de Damas, mais je n'ai pas d'enfant. Et le Seigneur lui dit, et après l'avoir conduit dehors, verset 15, Abraham, et dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Des fois, pour que notre foi retrouve un peu de vigueur, il nous faut lever un peu les yeux en haut, regarder les merveilles de la création et dire « Mais ça tient là-haut, le ciel ne nous tombe pas sur la tête, il y a les étoiles, et qui a fait ça? C'est l'Éternel. » Et donc il peut prendre soin de moi. Il peut prendre soin de moi. Et Abraham, vous voyez, Abraham eut confiance en Dieu. Simplement en regardant les cieux et en se rappelant qui était Dieu. Donc les versets 5 nous disent « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. » Nous sommes limités. Quand nous utilisons notre raisonnement, on arrive à des limites. Eh bien Dieu, il nous a dit « Son intelligence n'a point de limite. » Et la physique comme la chimie ont avancé parce que les hommes étaient limités, soit par les instruments qu'ils avaient à l'époque, soit par la réflexion qu'ils se posaient sur les différents phénomènes. Et ça a avancé parce que, eh bien, au fur et à mesure, on a découvert des choses qu'on ne pouvait pas comprendre à une époque, parce qu'on n'avait pas des instruments assez précis, parce qu'on n'avait pas des modèles mathématiques non plus assez précis. Dieu, il a tout ça. Il a tout ça. Les instruments, l'intelligence. Il est donc intelligent. Ça n'a pas de limite. Il est fort aussi, puissant par sa force. Donc, il peut faire toute chose. Il peut ouvrir la mer rouge pour vous laisser passer. Il peut refermer la mer sur vos ennemis. Il peut défaire les roues des chars des Égyptiens. Enfin, Dieu est puissant par sa force. Verset 6, l'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Voilà. Il a soutenu les malheureux, son peuple qui était parti en exil. Il les a ramenés. Et les Babyloniens, eh bien, ils ont été conquis par les Médo-Perses. Voilà. Une puissance tombe, une autre vient. Voilà, il abaisse les méchants jusqu'à terre, tandis que son peuple, il les soutient. Voilà, c'est la conclusion de ce qui vient d'être dit. Dieu soutient les humbles dans leur affliction et il abaisse les orgueilleux de Babylone. Donc finalement, ce n'est pas le méchant qui est tout puissant, c'est l'Éternel qui est le Dieu tout puissant. Et aujourd'hui, on voit dans nos sociétés des hommes qui se dressent comme étant plus puissants que n'importe qui, mais au-dessus d'eux. Il y a un Dieu plus puissant et qui abaisse en son temps les méchants. Et toute l'histoire le montre. Et il nous a dit, versets 7 et 9, « Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre, donc je suis au psaume 147, il couvre les cieux de nuages, verset 8, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. » Il nous a dit au verset 7, « Chantez à l'Éternel avec action de grâce. » On chante à l'Éternel, mais on est reconnaissant quand on chante. Derrière nos chants, il y a de la joie, il y a de la reconnaissance. On ne chante pas simplement d'une façon théorique, ni d'une façon un peu... voilà, on chante, il y a le cœur qui est derrière, avec action de grâce. Célébrer notre Dieu avec la harpe. Et vous voyez, Dieu met en œuvre toute une suite de choses. Il y a d'abord... Il couvre les cieux de nuages, il faut d'abord les nuages pour qu'il y ait la pluie. Ensuite, il prépare la pluie pour la terre, voilà. Ensuite, il fait germer l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. C'est toute une affaire, c'est tout un protocole. Et là, on est invité à chanter à l'Éternel avec action de grâce, célébrer notre Dieu avec la harpe. Ce qui était dit au début est repris ici, au verset 1, c'était louer l'Éternel, et nous est dit maintenant chanter à l'Éternel. Célébrer notre Dieu avec action de grâce. Voilà, une nouvelle invitation à la louange qui est suivie d'un développement sur la bonté du Dieu très haut. Alors, au début, au verset 4, pour montrer la puissance de Dieu et la bonté de Dieu, il nous avait dit que Dieu compte le nombre des étoiles et qu'il leur donne à toutes des noms. Voilà, le ciel, quand on lève les yeux au ciel, on dit, mais voilà, Dieu compte tout cela, il donne des noms étoiles. Et là, nous sommes ramenés un peu plus bas, à la terre, aux animaux, aux créatures terrestres. On voit que là aussi, Dieu témoigne de la bonté. Et vous voyez que Dieu témoigne de la bonté en faveur du bétail. Voilà, les nuées sont là, la pluie et la végétation pour nourrir les animaux qui mangent de l'herbe, les herbivores. Et il nous a dit aussi que même le petit du corbeau, le corbeau c'est un charognard, hein. Eh bien, même ce petit du corbeau, l'un des plus vulgaires d'entre les animaux, Dieu prend soin de lui. Et si l'Éternel prend soin de ses animaux de cette façon, comment il oublierait ceux qui le craignent? Lisons Luc, chapitre 12, verset 24. Lisons Luc chapitre 12, verset 24. La parole, mes amis, la parole de Dieu, c'est ce qui nourrit notre foi, qui nous rappelle les choses, les promesses de Dieu. Il ne faut pas les chercher plus loin, ni ailleurs. Luc chapitre 12, verset 24. On peut commencer Luc chapitre 12, verset 22. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce de quoi vous serez vêtu. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Considérez, verset 24, les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les corbeaux? Voilà. Dieu prend soin de ces petits animaux, eh bien, il prendra soin de vous. Il nous a essayé aussi Job, on peut lire Job. Donc on refait un grand saut dans l'Ancien Testament. Job, verset 39, vous saviez, Job passait par des moments difficiles. Durement éprouvé, il avait perdu ses enfants, il avait perdu son cheptel, et il avait perdu sa santé, et il avait perdu aussi le soutien de sa femme, qui dit, mais maudit Dieu est mort, qu'est-ce que tu continues à faire confiance à Dieu? Regarde. Et pour encourager Job, le Seigneur lui a montré tout ce qu'il fait dans la nature. Et nous devons aussi avoir les yeux de temps en temps fixés en haut et sur ce qu'on voit autour. Et Job 39, le Seigneur lui pose des questions. « Chasses-tu la proie pour la lionne et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont en embuscade dans leur repère ?» Et verset 3, « Qui prépare au corbeau sa pâture ?» Quand ces petits crient vers Dieu, quand ils sont errants et affamés. Et la question est posée pour que Job réfléchisse. Hein. Qui prépare ça? Quand les petits crient, c'est Dieu qui prépare la nourriture. Et si vous lisez Job, vous allez voir que Dieu est derrière bien des choses. On peut lire aussi le psaume 104, verset 21. Donc on revient dans les psaumes. Psaume 104. Alors on a vu les petits animaux, les oiseaux, les petits du corbeau. Et il nous a dit au verset psaume 104, au verset 21, les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Et on peut lire au verset 27, tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Verset 28, tu la leur donnes et ils la recueillent, tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Voilà. La parole nous dit, mes amis, comprenez les choses. Nous, on va parler de l'instinct du lion. On va dire le lion par instinct chasse sa proie. Et c'est son instinct qui le pousse à chercher sa nourriture. Les oiseaux aussi, c'est leur instinct qui les pousse à chercher la nourriture. Eh bien, le psalmiste nous dit avec plus de vérité, de piété, que les animaux demandent à Dieu leur nourriture. Voilà. Ce n'est pas seulement une histoire d'instinct, ils demandent. Alors, le rugissement du lion, c'est sa façon de dire, « Seigneur, donne-moi ma proie. » Le cri, le petit du corbeau quand il piaille, c'est sa façon de dire à Dieu, « Donne-moi à manger. » Voilà. C'est en quelque sorte leur façon de parler. Et justement, Spurgeon, qui a écrit un très beau livre sur la prière, disait, « Mais regardez, le petit du corbeau, il a un langage qu'on ne comprend pas, et nous, on a un langage qui est mieux structuré, on a un sujet, un verbe, un complément, on peut mettre plein de belles choses, expliquer à Dieu tous nos besoins. Il nous encourage à prier. Voilà. Les animaux prient, en quelque sorte. Et ils reçoivent de Dieu des réponses à leurs prières. Pourquoi ne prierait-on pas, nous, qui sommes faits à l'image de Dieu, qui pouvons dire à Dieu parfaitement, je veux une chemise blanche et pas une bleue. Voilà, on a des nuances. Les animaux, ils piaillent, ils crient, et Dieu répond à leurs prières. Donc, prions, frères et sœurs, Dieu entend les cris des animaux, il va entendre le cri des hommes fait à son image. Il va entendre nos propos, nous savons argumenter avec lui. Et quand on regarde les prières dans la Bible, on voit que des hommes ont argumenté avec Dieu, avec des mots de tous les jours, et Dieu a entendu. Il répond en son temps et à sa façon, comme il nous a dit dans le psaume, il répond en son temps, il donne la nourriture en son temps, et les animaux la prennent de lui. Voilà. Et nous avons besoin dans nos vies de comprendre que ce que nous avons, c'est Dieu qui le donne. Ce n'est pas nous qui l'avons comme ça. Alors, dans son livre justement sur la prière, Spurgeon disait que les naturalistes ont observé que quand les petits du corbeau, quand ils commencent à avoir des plumes, quand ils sont capables de voler, eh bien, les parents eux-mêmes les chassent du nid. Et ils sont obligés de chercher par eux-mêmes leur nourriture. Et le corbeau est rigoureux avec ça. Tu sais voler, tu t'en vas chercher ta nourriture. Il n'est pas question, oh, non, est-ce que tu peux me garder un peu Non. Tu sais voler, tu vas chercher. Eh bien, le Seigneur nous dit que les petits du corbeau crient à ce moment à Dieu pour qu'il leur donne la nourriture. C'est pour eux un moment dur, c'est un moment décisif, c'est une grande... Ils n'ont pas d'expérience, ils doivent partir, voler et maintenant chercher la nourriture que les parents leur ont toujours donnée. C'est maintenant à eux de se débrouiller. Eh bien, sans expérience, chassés du nid, ils se mettent à crier à Dieu pour que Dieu leur donne la nourriture. Et Dieu la leur donne. Donc, c'est Dieu lui-même qui nourrit les animaux. Donc, ça nous encourage à faire confiance à Dieu. Quand vous avez la nourriture sur votre table, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Il vous l'a donné. Le verset 10 et 11 nous dit « Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Vous voyez, Dieu n'est pas impressionné par la force de l'homme, il n'est pas impressionné par un déballage de puissance, il regarde au cœur. Voilà, il regarde au cœur. Voilà, Dieu voit le cœur, hein. Il voit ceux qui le craignent, ceux qui lui font confiance, ceux qui espèrent en sa bonté. Voilà. Donc on a vu dans ces premières parties un Dieu qui restaure, des versets 1 à 3, un Dieu aussi qui est puissant, versets 4 à 11, l'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent dans sa bonté. Voyons maintenant un Dieu qui fait du bien à son peuple, versets 12 à 20. Jérusalem célèbre encore une fois un appel à la louange, célèbre l'Éternel ton Dieu, Sion loue ton Dieu, car il affermit les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux, qui peut résister devant son froid. Il envoie sa parole et il les fond. Il fait couler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Alors, un professeur de science dirait, voilà, les températures descendent, l'eau gèle, voilà, les températures remontent, l'eau se liquéfie, le cycle de l'eau, enfin, il y aurait plein de formules à donner, voilà. Mais non, la parole nous dit que c'est l'Éternel et c'est sa parole qui fait toutes ces choses que nous voyons. Toutes ces choses dont nous profitons, voilà. C'est Dieu qui l'a fait. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la... Il lance sa glace par morceaux. Et regardez aussi, au verset 13, il nous a dit, tes fils, alors, il rend, verset 13, car il bénit les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Les fils avant étaient importants parce qu'il n'y avait pas de sécurité sociale, hein. Quand les maris décédaient, les femmes se trouvaient, étaient veuves et il fallait des garçons pour prendre soin d'eux. Eh bien, bien plus nécessaire que la sécurité dans des murs, Dieu bénit les fils qui vont prendre soin des parents. Voilà. Il nous a dit aussi, il rend la paix à ton territoire, verset 14. Verset 14, il rend la paix à ton territoire. On peut lire par exemple Néhémie. Néhémie chapitre 6, verset 15 à 16. Néhémie chapitre 6. Gardez un droit dans le psaume. Là, et allons à Néhémie. Alors, il y a eu beaucoup d'opposition lorsque les Juifs sont revenus. Et Néhémie, chapitre 6, versets 15 à 16. Donc, beaucoup d'obstacles se sont dressés devant le peuple de Dieu quand ils ont voulu reconstruire la muraille, mais ça s'est fait. Et regardez, verset 15 du chapitre 6 de Néhémie, « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élu en 52 jours. » Et verset 16, on dit, « Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accompli par la volonté de Dieu. » voyez là, même les hommes n'ont pas été loués, même les ennemis ont reconnu que derrière ce qui avait été fait, eh bien, c'était la puissance de Dieu, c'était la volonté de Dieu qui s'accomplissait. Voilà. Alors, la place centrale de la parole, hein, verset 15, versets 18 et 19, je reviens au psaume 147. Il envoie ses ordres sur la terre. Il donne la neige comme la laine. Verset 18, il envoie sa parole. Verset 19, il révèle sa parole. Vous voyez la place centrale de la parole de Dieu et son efficacité. La parole de Dieu ne reste pas sans effet. Elle est efficace. Alors, lisons la parole de Dieu. Des fois, nous avons le sentiment que, bon, lire la Bible, ça va rien faire. Non, non, non. On ne sait pas comment Dieu utilise sa parole. On ne sait pas, la pluie quand elle tombe, c'est Isaïe qui dit ça, la pluie et la neige descendent pour fertiliser le sol, pour donner de la semence. Et bien de la même façon, Dieu envoie sa parole, elle ne revient pas à l'Éternel sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle l'Éternel l'avait envoyée. Et là, c'est la parole de Dieu, verset 17, verset 18, verset 19, qui est là, sa place centrale. Et elle est efficace. Il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité. Il envoie sa parole et ils les font. Voilà. Et la restauration d'Israël, le retour d'Israël à Jérusalem, comme sa libération de Babylone, n'aurait pas pu se produire sans que Dieu l'ait ordonné. C'est parce que Dieu parle, c'est parce que Dieu ordonne. Voilà. De la même façon que Dieu parle et il ordonne pour que la neige tombe, que la pluie se fasse, eh bien, la parole de Dieu est là. Nous voyons cet effet, ou nous ne la voyons pas, mais nous voyons simplement la pluie, la neige, mais derrière, nous a dit que c'est la parole de Dieu qui agit. Voilà. Et en même temps, la neige, la glace et tout ça peuvent représenter pour nous des temps d'épreuve. Eh bien, Dieu envoie la neige, il l'enlève, comme il envoie la chaleur, il l'enlève. Dieu, toutes ces choses, l'adversité comme la félicité, sont au commandement de Dieu. Remarquez, verset 19, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Dieu ne donne pas sa parole pour qu'elle ne soit pas comprise. Il révèle, il instruit. Et remarquez aussi que personne n'entend la parole de Dieu quand il y a la pluie qui tombe, quand il y a l'herbe qui pousse, quand les animaux sont nourris, on n'entend pas la parole de Dieu. Pourtant, c'est elle qui agit. C'est elle qui a l'œuvre. Et bien de la même façon que la parole de Dieu est à l'œuvre pour faire tomber la pluie, la neige, pour nourrir les animaux, et bien la parole aussi de Dieu est à l'œuvre pour nous faire comprendre la volonté de Dieu, pour nous faire comprendre son amour. Et Dieu agit de la même façon pour l'Église. C'est un immense privilège. De Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17, « Toute écriture est inspirée de Dieu, est-il pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit propre et accompli à toute bonne œuvre. » Vous voyez, la parole de Dieu est essentielle. Donc Dieu nous fait du bien. C'est une raison pour laquelle nous pouvons l'adorer avec joie. Nous pouvons le célébrer. Et enfin, le dernier verset nous dit que l'Éternel est digne de louange. Ça reprend le thème du début. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances, louez l'Éternel. Pendant tout ce psaume, on a été encouragé à louer l'Éternel, à voir que derrière toutes ces choses dont bénéficient les animaux, la nature, dont aussi toutes ces grandes choses qui sont bien ordonnées, il y a la main de Dieu, il y a la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la sagesse de Dieu, et bien nous pouvons louer l'Éternel pour ça. Alors, le verset 7, je reviens au verset 7 pour conclure. Nous lisons au verset 7. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec l'harpe. Vous voyez, il y a quelque temps de ça, le peuple d'Israël était en exil. Maintenant, ils sont revenus à Jérusalem et ils sont encouragés à célébrer l'Éternel. La chorale est en place, les harpes sont accordées, ils sont encouragés à célébrer l'Éternel. Au verset 12 et verset 20, il nous a dit: Jérusalem célèbre l'Éternel, Sion loue ton Dieu, et le verset 20 aussi. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Voilà, maintenant que la chorale est là, maintenant que les harpes sont accordées, eh bien, tous les rachetés vont entendre ensemble un chant à l'Éternel, parce que sa parole s'est accomplie. Dieu les a ramenés tels qu'il avait promis. Dieu n'a pas fait un plan B, hein, c'était déjà prévu. 70 ans d'exil, vous allez revenir. C'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. C'est Dieu qui les a rassemblés. C'est Dieu qui a rebâti Jérusalem, parce qu'il l'avait décidé bien avant. Ce n'est pas les hommes. Et donc nous sommes, nous rachetés, qui sommes au bénéfice de la grâce de Dieu, qui sommes au bénéfice du sang de Christ, de l'Esprit de Dieu, qui sommes au bénéfice des tendres soins de Dieu, au même titre que la nature qui nous entoure. Soyons attentifs à la grandeur de notre Dieu et louons notre Dieu de tout notre cœur, de jour après jour. Voilà. Que le Seigneur bénisse sa parole dans votre cœur. Et j'aimerais qu'on termine avec ce chant de louange digne. Digne es-tu, Seigneur.